Vision d'Histoire.
Chers auditeurs et auditrices Radio-Galilée, bonjour, Martine Dumais au micro, je suis heureuse de vous retrouver. Et de retrouver notre invitée, Mme Brigitte Garneau, anthropologue sociale et culturelle. Bonjour Mme Garneau.
Bonjour Martine.
Merci d'être là encore cette semaine. Nous avions débuté avec vous une étude la semaine dernière de 5 générations de l'épine, les rituels mortuaires au Québec. Je rappelle que vous êtes intéressée dans le cadre de vos recherches et vous avez écrit plusieurs ouvrages autour de cette question de la mort au Québec. Vous avez écrit notamment chez Gide les textiles dans les services funéraires de la maison Germain-Lépine, les débuts de l'embaumement matériel au Québec avec Adélard Lépine et les corbillards à chevaux de la maison funéraire Germain-Lépine. On avait vu pourquoi vous êtes intéressé à cette question des rituels funéraires de la mort. On avait parcouru avec vous les nombreuses générations de l'épine qui se sont illustrées dans le domaine funéraire à Québec et de façon plus large. Et on s'était laissé sur la question des rituels catholiques, entre autres. La maison, l'épine, c'est 5 générations. Une première question, est-ce que c'est fréquent, 5 générations, dans le même domaine au Québec et à Québec?
Non. En général, au Québec, on dit sur le plan commercial que c'est 3 générations qui tiennent la route. Mais évidemment, quand on a la chance d'avoir des garçons, parce que dans ce temps-là, on transmettait l'entreprise surtout aux hommes et puis le nom de famille aussi, ben c'est cette force des Lépine, ça a été que à chaque génération, ils ont eu des garçons qui ont pris la relève. Et même le temps que Malvina Racicot était en place, de 1917 à 1937.
Qui était veuve d'un Lépine.
Elle était veuve de Germain Lépine. Ben, on disait pas Madame Malvina Racicot Lépine, hein. C'était vraiment Germain Lépine enregistré, Germain Lépine limité, Madame Germain Lépine. Alors, ils ont réussi à garder ce nom-là en force, à la fois grâce au travail des femmes et des hommes, mais la transition du nom de famille en ligne patrilinaire a joué aussi là-dessus.
On voit bien l'anthropologue quand vous nous parlez de ça. On avait commencé à voir aussi comme anthropologue, vous étiez intéressé aux rituels catholiques et à la question des textiles. On avait terminé sur cet élément-là. Vous nous aviez dit, si je me souviens bien, qu'il y avait des rituels qui dataient presque de l'époque de la Nouvelle-France, mais en fait de la France. Et ça, c'était presque une de vos fiertés d'avoir découvert ça.
Oui, d'avoir découvert l'ouvrage de Claude François Ménestrier en 1683 et d'avoir lu ce vieux livre écrit en vieux français de 367 pages, puis de voir que nos rituels, en fait ceux de ma famille et ceux que j'ai connus au Québec, ceux qui ont été étudiés par les historiens, étaient les mêmes que ce que recommandait le jésuite. Alors, dans ça, lui-même, il y avait des avis qui touchaient les couleurs des tentures adaptées à différentes catégories de défunts. Alors, moi, ça m'a beaucoup intriguée, cette affaire. Fait que je me suis mis à regarder à travers les artefacts de la collection, à travers les registres, à travers toute la littérature ethnologique sur les corbillards. Qu'en était-il des couleurs utilisées par les Lépine dans le cadre du cérémonial funèbre?
Et on voit qu'il y a 3 couleurs qu'on connaît bien, qui sont associées au deuil d'une certaine façon. Il y a le noir, le violet et le blanc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, et le gris aussi. On l'a oublié, mais quand même. Oui, lors de l'exposition à domicile des membres de l'élite, là, on voyait de riches garnitures de velours noir agrémentées de franges dorées. Ça trouvait vraiment leur place. De façon générale, le noir était réservé aux personnes mariées, hommes et femmes. Il y avait des ensembles gris qui servaient à distinguer les célibataires laïcs des personnes mariées. On trouvait même ces distinctions-là sur la toiture des corbillards où des pièces décoratives identifiaient le statut du défunt. Pour les personnes mariées, on posait des pièces noires. Puis pour les célibataires, elles pouvaient être grises. Puis pour les enfants de mari, par exemple, elles pouvaient être blanches. Le blanc se retrouve souvent sur le drap qui recouvre le cercueil des nouveau-nés. des enfants et même des adolescents s'ils sont considérés comme des êtres purs. C'était important, la chasteté, hein? Ben, jusque dans les années 40, pour les hommes aussi. Quant au violet, c'était déjà une teinte en usage dans les articles funéraires dès la fin du 19e. Moi, je pensais que ça datait du milieu de 1937. Là, Robert Lépine en avait parlé, mais non. Dans les journaux des ventes, en 1895, c'est écrit pour Mademoiselle Langevin, enfant de Marie, le cercueil sera abrillé de draps avec un peu de violet. La même année, M. Binet va choisir pour son enfant de 3 ans une casquette blanche garnie en violet. En 1915, on va retracer en inventaire dans les inventaires là, tenus par Germain Lépine-Fils, des cercueils modernes avec de la peluche violet puis du drap de satin noir. Puis en 1919, on est rendu à son épouse, là, la veuve qui était Malvina Racicot, ben, le troisième étage là, de la fabrique, il déborde de tissus variés, le cachemire violet puis la peluche violet en abondance. Puis Robert Lépine rappelle qu'en 1937, au moment où lui il est entré dans la procession, on décorait la porte extérieure avec une crêpe de porte. Certains disent un crêpe de porte. Si c'était une dame, a-t-il écrit, il y avait un peu de blanc. Si c'était des évêques, il y avait un peu de violet. Si c'était des enfants, des bébés, les crêpes étaient blancs.
Vous avez aussi, dans le cadre de cette étude-là, essayé de comparer les traditions, les rituels dans un diocèse urbain, celui de Québec, et un diocèse plus rural, celui de Saint-Anne-de-la-Pocatière.
Tout à fait. Puis, encore là, chose étonnante, tous les accessoires offerts par la maison Germain-Lépine concordent avec ceux qu'on connaît à la fois dans ce diocèse que vous mentionnez, puis à la fois le milieu rural québécois qui a été étudié par certains ethnologues. Les bandolières, les crêpes, les gants, les crêpes de porte, les garnitures de chambre, les vêtements pour les défunts, les draps de cercueil, les soirs, les décorations d'église sont présents à Saint-Antoine-de-Sillé, Grondine, Saint-Martin, Saint-François-de-Beauce, ben, maintenant c'est Beauceville, là, Saint-Joseph, Saint-Charles-de-Bellechasse, toutes des villages qui relevaient du diocèse de Québec, mais on les retrouve dans le diocèse voisin de Saint-Anne-de-la-Pocatière, à Saint-Denis de Kamouraska, à Montmagny, dans la région de la Côte-du-Sud, à Lillet. Ce qui différencie les deux diocèses, ce sont plutôt des variantes, qu'on appelle, nous, ça, en anthropologie, là, des variantes locales d'un même processus ou d'un même pattern, là. Par exemple, dans la région de Montmagny, lorsqu'on exposait le corps, le défunt n'avait pas de souliers, seulement des pantoufles, parce qu'on croyait que les souliers, ça fait trop de bruit pour entrer au paradis. Dans le cas d'une femme, on lui faisait porter une coiffure. Autre exemple, toujours à Montmagny, les hommes désignés pour porter le cercueil marchaient devant le corbillard. Ils tenaient dans leurs mains les cordons d'un drap mortuaire qu'ils appelaient un poêle. Puis à Lillet, proche de Saint-Jean-Port-Joli, on recouvrait les cercueils des dames de Sainte-Anne de matériel complètement violet-mauve. Ce sont des variantes locales.
Brigitte Garneau, avant la pause, vous avez parlé de cette petite tradition à Montmagny de mettre des pantoufles. C'est quand même extraordinaire comme symbolique.
Oh oui, c'est l'historien Yves Hébert hein, qui a étudié les rituels mortuaires de Montmagny. Et il a le tour, Yves, de décrire des petits détails ethnographiques comme ça qui nous font bien plaisir.
J'imagine que le Concile Vatican II, avec les changements qu'il a apportés, a amené aussi des changements dans les questions funéraires.
Tout à fait. Moi, j'appelle ça une révolution, une véritable révolution rituelle dans le monde catholique romain. Dans les églises, on a assisté à l'abandon progressif des prie-dieux. La position debout a remplacé l'agenouillement. Le concile a entraîné une suppression graduelle de tous les éléments qui établissaient une distinction sociale à l'occasion des funérailles. Dans d'autres occasions aussi, mais spécialement à l'occasion des funérailles, c'était pas rien. Hein. Alors, il y avait trois classes de service. Ça, c'est disparu. On calculait le nombre de cierges, le nombre de lampions, le nombre de chantres, le nombre de servants de messe, puis le nombre de volets de cloches selon ces types de services-là. Maintenant, c'est disparu. On a assoupli les horaires pour les cérémonies destinées aux plus démunis. Eux, ils devaient se faire enterrer souvent à 5 heures du matin. Et puis, on a autorisé la concélébration par les prêtres, parents ou amis de la famille. On a personnalisé les rituels au cimetière. Alors, tout ça, ça a vraiment signé la fin du déploiement des tissus décoratifs. Hein? Ça tombe sous le sens. Puis, la prise de position de l'Église catholique sur l'incinération du corps, elle considère que ça n'affecte pas l'âme. Ça a fait que le gouvernement a donné une autorisation d'aménager des équipements de crémation en dehors des cimetières en 1972. Je parle du Québec, évidemment, là, parce que la crémation, ça existait à Montréal en 1898. Là. Et là, la maison funéraire Lépine a installé le premier four crématoire à Québec en 1974. Tout ça, ça a vraiment accentué les profonds changements voulus par le pape Jean XXIII, qui préconisait un retour à l'esprit de la charité évangélique. Hein? Faut toujours se le rappeler. Moi, c'est mon pape préféré, là, avec François, c'est sûr.
Brigitte Garneau, si maintenant on prenait quelques minutes pour parler de... On l'a évoqué durant la première émission, mais Adélard Lépine a laissé une empreinte fort importante et c'est l'objet de votre deuxième ouvrage.
Oui, Adélard Lépine, qui est méconnu à quelque part. Hein. Je suis bien contente de lui avoir rendu justice par ce volume. C'était le fils aîné de Germain Lépine fils et de Malvina Racicot. Il est né en 1871. Il appartient à la troisième génération des Lépines. Il est considéré comme le père de l'embaumement artériel au Québec. C'est pas juste moi qui le dis. Il a fait ses études chez les Frères des écoles chrétiennes. Il est entré... tout comme son père, d'ailleurs. Il est entré au service de l'entreprise de son père et de son grand-père après. Puis là, c'est là qu'il a commencé à pratiquer l'embaumement vers l'âge de 22 ans. Ça, c'est complètement méconnu. On a toujours dit que l'embaumement au Québec, ça a commencé en 1898 avec le cardinal Taschereau. Pas du tout. Moi, dans les registres, là, j'ai trouvé qu'entre 1892 et 1894, il avait déjà réalisé une douzaine de traitements de cadavres. Il était parfaitement bilingue. Souvenons-nous qu'à Québec, dans les années 1890, les Anglo-Écossais et les Irlandais catholiques étaient présents dans l'administration, dans le commerce. On est dans l'industrie des chantiers maritimes. Et donc, il s'est rendu aux États-Unis en 1896 pour prendre des leçons sur l'art de l'embaumement. Ça s'appelait le Champion College of Embalming à Springfield, dans l'État de l'Ohio. Quand il est revenu de Springfield en 1897, il a effectué d'autres traitements de cadavres avant celui du cardinal Taschereau. Puis en 1899, il est allé de nouveau parfaire sa formation à New York, cette fois à la Renoir Training School of Embalmers. Cette institution-là était dirigée par le docteur Renoir. C'est un Louisianais, parle français, qui a enseigné l'embaumement en Europe et à travers le monde. C'est juste à son retour de New York en 1900, la maison funéraire de son père a modifié ses factures. Puis là, on voit officiellement la spécialité embaumement des corps.
Votre troisième ouvrage porte sur une autre facette de ces questions de rituels funéraires, sur les corbillards à chevaux de la maison funéraire Germain Lépine à Québec. Et on doit dire, on l'a évoqué lors de la première émission, mais c'est un peu beaucoup grâce à la collection Lépine qui se trouve au Musée de la Civilisation que vous avez des traces et des artefacts aussi nombreux et aussi extraordinaires.
Bien, c'est sûr parce que dans la collection Lépine, ils ont légué trois corbillards au Musée de la Civilisation. Un véritable carrosse princier pour enfants, blanc, un noir pour adultes et puis le corbillard protocolaire. Les corbillards, ça a une résonance assez particulière dans les 130 ans de notre histoire funéraire parce que à partir du 19e siècle, l'Église a commencé à accepter que le transport des cercueils se fasse non plus à bras d'homme, mais avec une voiture spécialisée, le corbillard tiré par des chevaux. En dehors des paroisses, Germain Lépine est le premier entrepreneur du Québec à acheter des voitures destinées exclusivement au transport des défunts. En 1845, ces premiers corbillards sont tout en bois, montés sur des poteaux, puis couverts de draperies de deuil. Dans les années 60, il acquiert ses premières voitures funéraires pourvues de fenêtres vitrées, très luxueux, des blanches pour les enfants, des noires pour les adultes. Puis entre 1845 et 1897, il a possédé jusqu'à 10 corbillards de différents modèles. Les corbillards, ça, contrairement à ce qu'on pense, ça servait pas seulement à reconduire le défunt à l'église, là. Mais on est à Québec. On les utilise pour aller quérir les enfants décédés de maladies contagieuses à l'Hospice Saint-Charles, à l'Hôpital Civique ou bien à l'île d'Orléans, avant de les conduire au cimetière. Quand il y avait de la contagion, souvent, il n'y avait pas de cérémonie. Ils ont circulé aussi des corbillards de Lépine dans les villages environnant Québec. Ils charroyaient du matériel en vue des cérémonies qui étaient tenues à domicile. On les voyait passer, hein, partout. Ils servaient aussi à la prise en charge puis à la reconduction des dépouilles au port puis aux gardes de train. Prenons un exemple pour se situer. Hein. L'exemple de Mgr Antoine Labelle. Le 5 janvier 1891...
C'est le curé Labelle.
Le célèbre curé Labelle, oui. Il est décédé à Québec au 26 de la rue Saint-Ursule. C'est les Lépines qui l'ont pris en charge. Ses restes mortels sont transportés en corbillard à la chapelle de la Congrégation de la Haute-Ville, où il va être exposé en chapelle ardente, rue de la Fabrique. Après son séjour dans la capitale, sa dépouille est reconduite de nouveau en corbillard et placée dans un train spécial de Québec vers Saint-Jérôme. Son retour donne lieu à un accueil extraordinaire qui est rapporté dans l'Écho des montagnes, qui témoigne du faste des défilés funèbres. Alors, vous voyez, là, on est rendu à Saint-Jérôme. Je vais vous décrire un petit peu comment ça se passait, pour vous dire à quel point nos mœurs étaient semblables, étant donné que les funérailles étaient catholiques et se pratiquaient de la même façon, selon certaines règles. Dans le défilé, 6 sarcophages d'une grande richesse traînés par chacun par 2 chevaux revêtus de noir, étaient surmontés d'ornements et produisaient un effet saisissant. Toutes les maisons sur le parcours de la procession funèbre étaient tendues de draperies de deuil. De distance en distance se dressaient des arches vêtues de noir portant de magnifiques inscriptions. Les apprêts funèbres de l'église dépassaient en richesse et en éclat tout ce qu'on peut imaginer. Toutes les grandeurs de la mort étalaient leur sombre majesté. On est en 1890.
Brigitte Garneau, dans votre ouvrage, à la page 51, vous parlez des funérailles du cardinal Taschereau. Je vais me permettre de vous lire, et après vous pourrez donc compléter. « En avril 1898, les Lépine et leurs employés font preuve d'une créativité hors du commun en prévision des funérailles du cardinal Elzéar Alexandre Taschereau. Ils bâtissent un corbillard catafalque fait pour les circonstances, traîné par 6 chevaux, couvert avec des habillements de drap confectionnés pour cette fin. » Grâce à un cliché, on assiste aux préparatifs avant le départ du cortège funèbre. La plateforme entourée d'une large jupe pour cacher les 4 roues, l'estrade pour recevoir la tombe, le baldaquin saturé de valence, la pléiade de fleurs de lys, toute cette composition générale étonne. Vous êtes capable, plusieurs dizaines d'années plus tard, de nous décrire ça grâce aux documents?
Grâce aux, oui, aux documents d'une part, puis à une photo que la petite fille, d'ailleurs, d'Adélard Despins a eu la gentillesse de nous donner. C'est important, cet événement-là, parce que c'est à ce moment-là qu'est née l'idée d'une voiture permanente. Germain Lépine-fils écrit dans son journal, « Il est devenu trop lourd et coûteux de confier à des employés déjà surchargés de travail la tâche de parer les corbières de banderoles, des pompons et de tous les symboles de grand deuil pour chaque funéraille d'État ou de personnage dont l'importance de la charge commandait des funérailles protocolaires. » Alors, il a demandé à son fils de concevoir un corbillard protocolaire. C'est cet immense véhicule richement sculpté en bois qui a marqué la mémoire des habitants de Québec. D'ailleurs, jusqu'en 1989, il a été exposé dans l'un des bâtiments de la maison funéraire. Les gens près de l'escalier Lépine allaient le voir à travers la vitre, les promeneurs du dimanche. Moi, je connais des gens qui ont 50 ans, puis ils se souviennent encore que leurs parents les amenaient voir cette magnifique voiture. Elle était tellement haute, là, qu'il fallait enlever la croix qui la surmonte lorsqu'on passait dans les rues de Québec où il fallait éviter des fils des chars électriques.
Le tramway
qui a arrêté de circuler en 1948. Hein. Alors donc, quand il passait dans les rues de Québec, il fallait éviter les fils de ce tramway, ces chars électriques-là, puis on devait s'assurer de la présence d'un jeune et courageux cocher qui assistait le conducteur. Fait qu'au passage périlleux, il sautait du siège du véhicule, il faisait basculer la croix, elle mesurait une quinzaine de pouces, là. Puis ce stratagème-là a duré jusqu'au 26 mai 1948, quand les tramways ont circulé pour la dernière fois à Québec.
Une autre chose qu'on apprend dans votre ouvrage, c'est que vous avez mentionné souvent que c'était les rituels catholiques, mais qui arrivait que la maison Lépine avait donc des gens qui étaient décédés, qui étaient d'autres confessions religieuses et qu'on adaptait certains éléments.
Oui, tout à fait. Elle rendait service à des individus qui appartenaient à des confessions religieuses autres que catholiques. Puis à ce moment-là, bien, elle retirait la croix, symbole de la foi chrétienne. Pour les membres de la communauté juive, par exemple, qu'elle reconduisait au cimetière Beth Israël, elle employait une étoile de David en bois. C'est un signe distinctif antique hein, qui fait partie des plus anciens artefacts de la collection Lépine. Quand les voitures funèbres à chevaux ont été remplacées par des corbillards automobiles, ben la maison Lépine, elle, a fixé dans une de ses vitres une étoile en vitre, à ce moment-là, en métal chromé.
Si on a des corbillards avec des chevaux, j'imagine qu'il faut parler, en tout cas quelques minutes, des soins qu'on devait apporter aux chevaux.
Des soins. On avait une écurie, mais on apportait des soins d'apparat, hein. Contrairement à certaines études où j'ai vu qu'ils leur peinturaient les jambes aux chevaux quand il n'y avait pas des chevaux tout noirs, il y avait des personnes au Québec, à Québec, qui fournissaient aux Lépines leurs chevaux tout noirs. Alors, ils leur peinturaient pas les pattes, là. Il y en avait des vrais tout noirs. Oui, dans leur cortège funèbre, là, les Lépines, ils choisissaient des chevaux de même race, à la même robe. Noir pour les adultes, blanc pour les enfants. Il les protégeait avec des housses d'ornement sur la croupe. Il les décorait avec des filets qui leur descendaient jusqu'aux genoux. Il leur faisait porter lors des longues, longues funérailles, des caparaçons qui leur couvraient les oreilles, le museau, la robe. Ça laissait juste leurs yeux dégagés par deux ouvertures, là, pour pas qu'il y ait peur. Puis les harnais étaient achetés dans des maisons réputées, établies à Québec ou à Montréal. Les harnais étaient coordonnés avec les brides, les colliers, les sellettes. Il y avait aussi des sonnailles hein, au timbre solennel. André Lépine me rapportait que deux à six chevaux de la race des percherons tout noirs pouvaient être requis selon les classes de service, puis des clochettes argentées étaient accrochées à leur crinière, signalant leur passage aux passants qui se signaient en enlevant leur coiffe ou parfois en s'agenouillant.
Brigitte Garneau, on est presque à la fin de cette deuxième émission. Si les gens veulent en savoir plus sur la question des corbillards, sur le contexte de production, le contexte d'acquisition, sur la valeur historique et architecturale, je pense qu'il faut les référer à votre ouvrage qui va dans beaucoup de détails, donc leur apprendre des informations à ce sujet-là. En terminant, c'est quoi l'héritage pour aujourd'hui de ces éléments funéraires? Puis quelles sont les traces des Lépines qui restent dans la toponymie de la ville de Québec? C'est quoi leur héritage, finalement?
Écoutez, c'est une question, c'est une grande question, hein? Mais le corbillard d'apparat, qui va faire partie de l'exposition permanente sur le Québec, là, prévue pour septembre 2024...
Au Musée de la Civilisation.
Au Musée de la Civilisation, c'est un héritage magistral. Avec les autres objets d'art mortuaire qui ont été acquis par le musée, le corbillard pour enfants, pour adultes, les attelages, les ornements pour chevaux, les tentures brodées, les bannières qui servaient à l'exposition du corps à domicile, les cercueils, les petits cercueils en bois qui n'étaient pas blancs à une certaine époque, hein, qui étaient en bois noble, les vêtements pour les cochers, les directeurs de funérailles, le matériel d'embaumement à domicile. Vraiment, là, c'est un héritage... qui témoigne non seulement de l'évolution des pratiques rituelles de cette ancienne maison funéraire, la plus ancienne de la capitale nationale, mais reflète aussi les avancées industrielles qu'a connues tout le Québec sur plus d'un siècle. Hein, ça nous permet, sur 130 ans, de voir tout, à travers les rites funéraires, toute l'évolution industrielle. Pour ce qui est des Lépines, ben, on sait qu'elle s'est établie sur la rue Saint-Vallier, entre 1845 et 1975, elle a laissé son empreinte dans tout le quartier Saint-Roch. D'ailleurs, il y a un espace urbain qui s'appelle Carré Lépine, dans ce coin-là. Puis, outre les bâtisses du siège social, il y a un escalier qui est désigné par la population Escalier Lépine. Il est adossé à la maison mère, puis il relie la basse ville à la haute ville. C'est un escalier qui a été dessiné par l'architecte Charles Baillarger. On pourrait poursuivre longtemps sur tout ce que nous a apporté cette illustre famille, mais comme vous le dites si bien, on peut aussi acheter mes livres.
Madame Brigitte Garneau, je rappelle que vous êtes anthropologue et vous avez écrit une trilogie publiée aux éditions Gide il y a quelques mois, « Les textiles dans les services funèbres de la maison Germain-Lépine »,« Les débuts de l'embaumement matériel au Québec avec Adélard Lépine »,« Les corbillards à chevaux de la maison funéraire Germain-Lépine ». Je vous remercie beaucoup, Madame Garneau, d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie, Martine.
Merci à Berthold Bernier pour la mise en onde, à Mario Blouin pour le choix musical. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Vision d'Histoire.